décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques.
Semaine 4, salut Manu.
Salut Luc et bon retour.
Merci. Alors qu'est-ce qu'on a au menu?
5 jolis articles.
Breaking news, Windows 7 devrait continuer de fonctionner comme une source ouverte des demandes de pétitions spectaculairement optimistes. Un article de la rédaction.
Donc il s'agit des pétitions, notamment poussées par la Free Software Foundation, la FSF. Et effectivement, c'est très optimiste parce que là, en quelque sorte, ils demandent à ce que Microsoft ouvre le code source de Windows 7, puisqu'il est en fin de support, et que ça permettrait à la communauté, à tout le monde, aux entreprises, aux institutions, de le supporter à leur place. Mais faut pas rêver, ça n'arrivera très probablement pas.
L'écho, Michel Bowens, plus une civilisation est inégalitaire et prédatrice, plus dure est sa chute. Une interview de la rédaction.
Donc plutôt intéressant, ça parle philosophie, ça introduit justement des concepts économiques, tout en parlant des communs et du logiciel libre dans tout ça, donc c'est vraiment, vraiment pas mal.
Vosges Matin, les valeurs du libre défendues par l'Ami Poste Télécom, un article de la rédaction.
Alors l'Ami Poste Télécom, c'est une association des Vosges, un club informatique, ça a l'air d'être plutôt sympa. Allez jeter un œil si vous habitez dans le coin, vraiment, c'est recommandé. Il y a d'autres articles qui sont en lien secondaire et qui parlent aussi d'associations locales comme Gulliving, et puis des discussions sur d'autres pétitions politiques plus locales qui parlent de logiciels libres notamment.
Bravo à toutes ces associations locales qui font un boulot essentiel. Livre Hebdo, Hachette reprend le livrescolaire.fr, un article de Hervé Huguenie.
Donc c'est un article qui m'a été remonté un peu bizarrement, parce que dedans ça parle pas de logiciel libre directement, mais en fait en creusant un peu, j'ai découvert que le livrescolaire.fr, c'est un site qui regroupe plein de manuels qui sont diffusés sur Internet et qui sont faits de manière collaborative par des profs divers et variés. C'est fait en libre, donc c'est plutôt intéressant, et on espère que Hachette va continuer l'initiative.
Breaking news, Proton VPN publie le code source et subit un audit de sécurité complet, un article de la rédaction.
Donc Proton VPN, VPN, Virtual Private Network, et donc c'est un moyen d'aller sur Internet de manière privée, en tout cas c'est ce qui est vendu par là. Généralement, accéder à un VPN, c'est payant, et grâce à ce VPN, vous allez pouvoir accéder à différents pays, différents endroits, sans qu'on sache que ça vient de votre ordinateur.
Voilà, c'est comme une sorte de tunnel qu'on emprunterait à partir de chez soi et on ressortirait ailleurs sur Internet.
Voilà, oui, carrément, c'est une bonne image. Et une des problématiques de tout ça, c'est qu'il faut faire confiance dans le fournisseur du VPN. Et là, Proton VPN, c'est un fournisseur. Et pour qu'on leur fasse confiance, pour essayer d'être le plus transparent possible, eh bien, ils font quelque chose qui est extraordinaire. Eh bien, ils ont ouvert le code source de leurs applications.
Comme ça, on peut voir comment ça marche pour de vrai.
Exactement. Donc là, c'est les qualités du logiciel libre en vrai. Après, il faut quand même continuer à leur faire confiance, et s'assurer, parce qu'on ne peut pas s'assurer complètement que ce soit bien ça qui tourne sur leur serveur. Mais c'est déjà une très grosse étape. Alors, le sujet de la semaine?
Quelque chose de complètement différent, puisqu'on va parler de l'Angola.
L'Angola, et qu'est-ce qu'il y a là-bas?
Bien, c'est un pays africain, bien sûr, qui est une ancienne colonie portugaise. Il y a actuellement un scandale de corruption, où une femme donc, qui s'appelle Isabel dos Santos, qui est la fille d'un ancien président angolais.
Et qui, d'après l'article, est la femme la plus riche d'Afrique.
Oui, c'est une milliardaire, c'est une femme qui a travaillé dans la finance internationale, ceci, cela.
Donc quelqu'un de compétent,
oui, bien sûr.
Sûrement.
Et probablement. Et il y a un hacker portugais du nom de Rui Pinto qui a fait fuiter des centaines de milliers de documents, en portugais pour l'essentiel, et qui démontrerait que cette brave dame a monté toute une série de magouilles, d'escroqueries,
d'évasion
fiscale et de choses comme ça.
Avec du blanchiment d'argent.
Oui, avec donc l'aide de banques et de tous ces gens respectables qui portent des cravates, et qu'elle s'est fait dans l'opération entre 1 et 2 milliards de dollars de revenus. Donc ce hacker est en prison actuellement.
Oui, mais alors il est en prison pour d'autres papiers qui ont fuité d'une autre manière.
Dans le domaine du football, donc les Football Leaks, où il avait sorti des documents qui tendaient à prouver qu'il y avait des grosses magouilles financières.
Et de l'évasion fiscale.
Et ce genre de choses au niveau des coupes européennes de football. Et c'est étonnant, on est surpris.
Oui, alors il a été attrapé en quelque sorte en Europe de l'Est, mais ensuite il a été extradé vers le Portugal. Et là, il est en prison, il attend un jugement, et il a 147 accusations sur le dos, donc ça va être compliqué pour lui.
Ces 147 accusations ne comportent pas ses affaires avec l'Angola. Donc lui dit que c'est un lanceur d'alerte, qu'il a hacké tout ça pour avertir le public.
Par contre, les procureurs pensent qu'il a fait possiblement de l'extorsion de fonds, et qu'il a fait fuiter des documents secrets, donc il a accédé à des ressources qu'il n'avait pas l'accès, il n'aurait pas dû y toucher.
C'est le propre même des fuites et des journalistes, parce que là, c'est un travail de journaliste qu'il a fait, même s'il n'a pas la carte. Et c'est ça, peut-être, qui va lui coûter cher.
Alors, c'est plus que le travail du journaliste, parce qu'on peut supposer qu'il a piraté des serveurs pour récupérer ces informations-là. Or, un journaliste n'a pas le droit de pirater normalement des serveurs. C'est un lanceur d'alerte, selon lui. Et de fait, on peut se dire que s'il avait voulu faire de l'extorsion de fonds, des choses comme ça, il ne se serait peut-être pas fait attraper aussi facilement.
Alors, on peut toujours s'attendre à des révélations hein, sur ce plan-là. Peut-être qu'il y a eu des demandes d'argent. C'est compliqué à vérifier. Mais en tout cas, on peut supposer qu'une fois
qu'on est mis en cause par ce gars-là et qu'il y a des fuites, voilà, le dire qu'il est là pour faire l'extorsion de fonds, c'est la meilleure défense qu'on peut trouver pour le faire taire.
Oui, carrément. Et puis, ça semble un peu ridicule quand il fait un travail, notamment sur cette femme d'Angola, qui elle-même a récupéré jusqu'à 2 milliards de dollars, et il révélerait donc des malversations financières d'assez haut niveau, assez complexes.
Donc bon, en fait, il est tout à fait dans la tradition d'un Julian Assange ou ce...
D'un voilà. Chelsea Manning.
Effectivement, Chelsea Manning était directement impliqué dans l'affaire, c'est légèrement différent, mais en tout cas bien dans la logique Julian Assange. Et il est dans des gros problèmes. Donc la difficulté avec ce genre de situation, c'est qu'il a fait fuiter donc 715 000 documents qui sont pour l'essentiel en portugais.
Et qui sont peut-être pas dans des formats facilement utilisables.
Et effectivement, et dans toute cette masse d'infos, il faut réussir à trouver l'information qui est pertinente. Donc ce qui nous a donné envie de parler d'un autre sujet. Alors ils sont a priori, de ce qu'on en sait, pas impliqués sur cette affaire-là, mais peut-être que si. Mais c'est le même genre de logique, c'est un groupe de journalistes qui internationalement s'organisent pour pouvoir exploiter ce genre de données et se donner les moyens de les explorer et d'en ressortir des informations intéressantes.
Alors, le groupe s'appelle ICIJ. Alors, comment tu le prononcerais ?
C'est l'International Consortium of Investigative Journalists.
Investigative Journalists.
Ah oui.
Mais c'est compliqué, hein. C'est un nom un peu long. Et ce sont des gens vraiment très intéressants qui travaillent sur des masses de documents et qui ont mis en place des techniques de travail en commun qui sont assez impressionnantes et basées largement sur de logiciels libres.
Oui, avec plein d'outils. On se doute, quand on a autant d'informations, autant de documents, on a plusieurs...
Oui, des dizaines de millions de documents, hein, parfois.
Voilà. On a plusieurs problématiques. D'une part, c'est des journalistes de différents pays. On se souvient que ce qui avait été fuité par Snowden, il avait préalablement organisé, enfin fait organiser par quelqu'un en qui il avait confiance, un groupe de journalistes qui allait se partager les infos.
Et puis ça s'est retrouvé pour les Panama Papers et les Paradise Papers. Hein.
Voilà. Et donc déjà, il faut organiser le travail de tous les gens qui vont participer à ça pour pas qu'il y ait de fuite, parce que évidemment, ils vont être surveillés par à peu près tout et n'importe quoi, qu'ils puissent communiquer entre eux, organiser leur travail de façon confidentielle. Ensuite, il faut trouver l'information pertinente dans la masse de tous les documents. Ensuite, il faut réussir à lire certaines choses, puisque certains documents peuvent être scannés, donc on a des images. Or, les images, c'est pas quelque chose qu'on peut indexer, puisqu'on n'a pas le texte, on a juste des pixels. Voilà, les pixels en eux-mêmes ne veulent rien dire.
Donc, il faut en extraire des données pertinentes et des métadonnées pour ensuite essayer de faire des liens entre tous les documents qu'on a
obtenus. Alors, les métadonnées... Pour expliquer quand même ce que c'est.
Alors, ce serait comme une enveloppe. Sur l'enveloppe, on met des adresses, on met des informations, par exemple, sur le poids. Donc, ça va être le nombre de pages, ça va être les personnes qui sont intervenues dans les documents, ça va être les dates, bien sûr, les montants, éventuellement.
Voilà, et le type de document, voilà. Si on va dire, ceci est une facture, par exemple.
Donc, les métadonnées, c'est les données sur les données. Et parfois, il est plus facile et plus pertinent de travailler sur les métadonnées parce qu'elles peuvent révéler, une fois qu'on les a un peu travaillées, elles peuvent révéler des informations très, très intéressantes.
Et ça permet aussi de faire des recherches. C'est-à-dire que quand un journaliste s'intéresse à tel ou tel sujet, il va dire « Ah bah, je veux vérifier toutes les factures émises entre telle date et telle date. »
Ou qui concerne telle personne.
Voilà, etc. Et donc, on a besoin que toute l'information soit organisée, étiquetée, pour pouvoir faire tous ces types de recherches puissants.
Donc là, on est tombé un petit peu sur les outils utilisés par ICIJ. Je ne sais pas comment il faudrait les prononcer. ICIJ. Et il y a plein d'outils qui viennent du monde Apache, qui viennent des gestions de bases de données, qui permettent de faire de l'extraction de données et qui permettent de travailler en commun. Ils ont notamment un truc qui s'appelle iHub et qui, en tout cas c'est comme ça qu'ils le présentent, permet de construire des forums par sujet et éventuellement des sous-sujets à l'intérieur pour que les journalistes puissent se concentrer sur des éléments en particulier et tout ça de manière hyper sécurisée en utilisant du chiffrement à plusieurs niveaux parce qu'ils savent très bien que, étant donné qu'il y a des dizaines, des centaines de journalistes impliqués sur les plateformes, eh bien, ce sont eux qui vont être les maillons faibles et qu'il en suffit d'un parfois pour accéder au reste. Donc, ils essayent de faire de la sécurité par couche, de garantir autant qu'ils peuvent la confidentialité, l'intégrité des données, en rajoutant à chaque fois des petits éléments. Tous les accès sont faits par PGP, Les accès sont confirmés par des mots de passe temporaires qui sont envoyés sur les téléphones portables. Et parfois, il faut aussi qu'ils aient des certificats sur leur ordinateur. Donc, il faut que l'ordinateur lui-même s'identifie quand il veut accéder au site où les journalistes travaillent en commun. Et ça, ce ne sont que certaines des mesures qu'ils révèlent. J'espère qu'il y en a d'autres.
Voilà. Tout ça pour pouvoir continuer à échanger de façon confidentielle, éviter de se faire pirater son ordinateur ou la messagerie pour que quelqu'un aille détruire les infos ou mettre des fausses informations dedans. C'est un grand classique hein, quand on fait des coups pourris.
On empoisonne. Hein.
Voilà, on met des vraies infos, puis on met des infos compromettantes pour quelqu'un dont on veut se débarrasser dedans. Et comme la plupart est vraie, on va considérer que... voilà.
C'était déjà arrivé, hein, y a eu des cas avec des hommes politiques français où c'était rajouté aux données qui étaient tout à fait pertinentes, d'autres données contre des opposants politiques. Mmh. C'était assez sale.
Et après, il y a toute la partie de retraitement des données brutes. Donc là, il y a toute une série de logiciels, hein, donc essentiellement des logiciels libres.
Alors allez, on a une petite liste rapide. Donc il y a du Apache Tika.
Donc ça sert à extraire les métadatas et le texte dans les documents.
Donc Apache Solr. Hein.
Donc ça pour construire un moteur de recherche, hein, pour retrouver les informations qui nous intéressent.
Tesseract.
Donc ça permet de lire avec de la reconnaissance de caractère ce qu'il y a dans les images pour en faire du texte qu'on va pouvoir indexer et justement mettre dans le moteur de recherche.
Donc il y a un outil qui s'appelle, qu'ils ont fait eux-mêmes, Extract.
C'est un autre outil qui va permettre de traiter les documents bruts pour en faire de l'information dans laquelle on puisse faire des recherches pour trouver l'information pertinente.
Et puis il y en a d'autres encore, hein, Blacklight, donc là il le nomme rapidement. C'est un portail qui permet l'accès aux journalistes.
Qui permet aux journalistes d'accéder aux documents et de rechercher.
Et puis après, il y a encore d'autres outils comme Neo4j.
Qui permet de faire des représentations graphiques.
Talend.
Qui permet donc de passer des données d'une base de données vers une autre.
Et puis alors le dernier que je ne connais pas vraiment, mais qui est intéressant, Link Curious.
Voilà, qui est également un outil de visualisation, qui permet de voir les liens entre les données, les structures de données, et voilà ce qui peut révéler un certain nombre d'informations.
On peut imaginer qu'il y en a d'autres, hein. A priori, oui. C'est pas limité, mais le fait que ce soit libre et que ce soit construit par des communautés, ça permet probablement à ces journalistes de ne pas être sous la coupe d'un fournisseur en particulier, d'un logiciel spécifique, et de pouvoir travailler en commun, peut-être même de faire des demandes aux gens et aux communautés qui fournissent les logiciels.
On peut supposer que ça coûte également moins cher, parce qu'ils doivent sans doute ne pas avoir tant de pognon que ça. Ça leur permet de travailler ensemble sans être dans un environnement complexe de licences propriétaires qui autorise à faire ceci mais pas cela. Ça permet également d'avoir confiance dans les logiciels parce que...
On sait qu'on ne sera pas trop tracé, qu'il n'y aura pas trop de failles de sécurité qui auraient été mises en place par le fournisseur du logiciel.
Et qu'il va faire ce qu'il est censé faire et qu'on sait qu'il ne va pas potentiellement, s'il y a une backdoor, la NSA ou n'importe qui d'autre pourrait par exemple aller effacer des données ou s'interdire de les remonter.
Oui, on sait qu'il y a eu des cas, hein, je crois que ce n'est Panama Papers, où il y avait des dirigeants d'Europe de l'Est et de Russie qui étaient impliqués par ces papiers. Et a priori, eux, ils ont des moyens phénoménaux, les moyens d'un État, pour aller empoisonner les données ou pour aller corrompre les disques durs des journalistes et les empêcher de révéler ces informations. Donc si les journalistes ne sont pas protégés face à Poutine ou Trump, eh bien, potentiellement, leur travail peut être gâché à tout moment.
Voilà, donc c'est vraiment du travail de très haut vol. Et donc on voit bien que quand on veut s'assurer de son autonomie, de sa sécurité, le logiciel libre est un impératif.
Donc, alors c'est pas suffisant, mais effectivement, c'est nécessaire.
Très bien. Et ce sera le mot de la fin. Merci Manu.
À la semaine prochaine, Luc.
Salut.